Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première, pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e Art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 23e épisode du Comex de la saison. Un 23e épisode qui tombe une nouvelle fois après une défaite de l'Olympique de Marseille qui s'est inclinée ce vendredi soir à Lille et qui voit sa qualification européenne de plus en plus compromise. Mais ne vous inquiétez pas, amis marseillais, j'ai de quoi vous remonter le moral puisque pour vous réconcilier avec votre club de cœur, vous avez la possibilité de lire un délicieux article de Romain Canuti dans la dernière revue de l'After dédiée aux agents de joueurs. Un article nommé « Marseille, agent content » et qui revient sur le rôle joué par de nombreux dirigeants et ex-dirigeants du club phocéen. De Bernard Tapie à Pape Diouf, en passant par Yvan Lemay et Vincent Labrune, tous ont occupé à un moment dans leur carrière un poste dans l'organigramme du club qui leur a permis par la suite de se lancer dans ce milieu. Un article que vous pouvez donc retrouver dans un excellent dossier consacré évidemment aux agents, comme je l'ai précisé, dans le 13e numéro de la revue de l'After, disponible dans tous les kiosques et marchands de journaux et sur le site internet lafter.media. Une revue qui sera d'ailleurs à gagner ce dimanche à l'occasion d'un nouveau live Twitch et d'un petit quiz sur notre chaîne 11e Art. Amis auditeurs, je vous invite donc à noter ce rendez-vous afin que nous ne nous retrouvions pas uniquement entre millennials ce dimanche soir. Les millennials qui seront d'ailleurs notre sujet du jour du COMEX, puisque nous apprenions ce dimanche que Samir Nasri sera donc le premier joueur sélectionné par le youtubeur Amin Mathué pour participer à la Kings World Cup. Vous savez, cette compétition de football à 7 organisée à partir du 26 mai prochain au Mexique par l'entreprise de Gérard Piqué et qui regroupera 32 équipes du monde entier composées d'influenceurs, de personnalités connues et d'anciens joueurs pro. Neymar et Zlatan Ibrahimovic dirigeront par exemple les équipes brésiliennes et suédoises. Une compétition qui se verra d'ailleurs attribuer des règles particulières puisque le format des cartons a été remodelé pour laisser leur place à des expulsions temporaires. Les coups d'envoi se feront à la manière de water polo, tandis que chaque équipe aura à sa disposition un joker utilisable à tout moment, lui permettant d'avoir un bonus temporaire comme l'exclusion d'un joueur adverse ou des buts contre double pendant un certain temps. Officiellement, Officiellement, ces nouvelles règles façon Mario Football auront pour but de pimenter le jeu avec des règles hors du commun, mais dans les faits, elles font aussi écho à un certain nombre de critiques avancées ces derniers temps par plusieurs dirigeants du football mondial. Le football serait devenu ennuyeux, une partie de sa jeunesse s'en désintéresserait totalement et certains de ses aspects méritaient d'être renouvelés. C'est en tout cas les arguments avancés par les instigateurs de la Super League, Florentino Pérez et Andrea Agnelli en tête. Les présidents du Real Madrid et de la Juventus Turin clament depuis 3 ans et le premier projet avorté de Super League que les jeunes ne s'intéressent plus au football et qu'une alternative aux compétitions actuelles est nécessaire pour revitaliser un sport en perdition. La Kings World Cup, elle, n'a pas vocation à venir concurrencer les grandes compétitions footballistiques, mais à proposer plutôt une alternative et pourquoi pas aussi servir de terrain d'expérimentation pour certaines règles, comme la VAR par exemple, qui sera utilisée à cette occasion sous forme de joker façon NBA ou tennis. Mais ces déclarations à tout va et ces nouvelles compétitions posent une question. Andrea Agnelli et Florentino Pérez ont-ils raison? Les jeunes se désintéressent-ils réellement du football? Eh bien, plusieurs études ont tenté de répondre à cette question sans véritable succès. En 2021, par exemple, un sondage Ipsos réalisé en partenariat avec la LFP et Footuni indiquait que près de 50% des moins de 35 ans avaient un intérêt pour le football et près de 60% d'entre eux auraient même une bonne image de ce dernier. A l'inverse, une étude menée en 2020 par l'ECA dans 7 pays européens autres que la France indiquait que seuls 28% des 16-24 ans se disaient fans de football. 39% d'entre eux affirmaient aussi ne pas s'intéresser du tout à ce sport. Difficile donc de se faire un avis sur ce sujet compte tenu de ces différentes études. Néanmoins, plusieurs éléments laissent sous-entendre une diversification dans la manière de consommer le football. Les tarifs prohibitifs pour accéder au stade ou s'offrir des abonnements de chaîne ou s'offrir des abonnements de chaîne à péage, par exemple, sont une des raisons principales. Comme l'expliquait le sociologue Nicolas Hourcade, avec la multiplication des chaînes et l'inflation des tarifs d'abonnement, le produit n'est plus disponible. Il n'est donc pas étonnant que les nouvelles générations au pouvoir d'achat limité soient les premières victimes de ces tendances. À titre d'exemple, mardi dernier, le match qui opposait Lyon à Valenciennes en demi-finale de Coupe de France, compétition populaire par excellence, n'était diffusé que sur beIN Sport, avec une audience qu'on imagine que très limitée. Dans la continuité de celle à la multiplication des plateformes de streaming vidéo et l'explosion de YouTube et des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram ont aussi massivement augmenté la concurrence en termes de contenu de divertissement disponible pour les jeunes. L'avènement de ces réseaux a aussi en partie fait naître une génération de highlights, plus enclin à consommer des contenus courts et addictifs que des contenus longs tels que les matchs de football. Une stratégie d'ailleurs parfaitement exploitée par l'Arabie Saoudite et la MLS, toujours plus enclin à promouvoir les actions de ces stars et à organiser des All-Star Games à tout va. Ces réseaux sociaux ont aussi permis à une multitude de créateurs de contenus de se développer pour toucher le plus souvent une cible adepte des nouvelles plateformes comme Twitch ou YouTube, et bien souvent lassée du traitement médiatique vieillissant de certains médias et ou la présence de certains chroniqueurs dans lesquels ils ne s'identifient pas vraiment. Comment dès lors renforcer l'intérêt des jeunes pour le football? Les grandes institutions doivent-elles nécessairement s'adapter aux exigences de ce nouveau public? Et d'un autre côté, le conservatisme de certaines d'entre elles est-il forcément nécessaire? En d'autres termes, un compromis est-il possible ou les millennials sont-ils d'ores et déjà les nouveaux patrons? C'est évidemment le sujet de notre 23e épisode du COMEX. Et pour ça, on a évidemment fait appel à notre COMEX titulaire. Baignant dans son conservatisme d'extrême centriste, il avait préparé tout un argumentaire pour taper sur les millennials jusqu'à ce qu'il réalise à 18h56.
Je ne casse pas ton truc.
Ok, bon, écoute, ce sera juste un teaser.
Ce sera juste un teaser.
D'accord, ok. Bon. Je dirais juste qu'à 18h56.
Si les gens n'ont pas déconnecté déjà à la moitié de ton introduction, je pense que déjà c'est bien.
Ah, bah, sympa, merci beaucoup. Ok. Je note, t'es en mode sniper, je note.
Bah, attends, chacun son tour, attends, tu te moques de moi.
Non, je dis pas ça, j'ai juste dit qu'à 18h56, aujourd'hui, tu avais réalisé que tu étais toi aussi un millénial, Thibaut. C'est Harvard qui le dit.
Je ne sais pas, justement.
Ce n'est pas une question, c'est un fait. Voilà. C'est Harvard qui le dit, exactement.
Ouais, bah. Enfin, Harvard, la branche qui vend des magazines relâche, quand pas la Harvard.
Ouais. Bon, lui, la dernière fois qu'il a eu une discussion sur le sujet de la génération Z, il s'est réveillé en pleine nuit en sueur après un cauchemar où Yann Cherki faisait ish-ish et donnait des interviews à SoFoot. J'espère que tu t'es préparé pour cette émission, JB, quand même.
J'ai relu mon Révolution Mbappé et je sais vraiment une seule chose de votre génération, c'est qu'il faut marcher dessus et que si on marche avec le pied gauche, normalement, ça porte bonheur.
Très bien, bravo. Et enfin, comme tout bon millénial qui se respecte, il est à la pointe de l'actualité musicale. Après s'être déhanché toute la soirée de vendredi sur Tiff et Varnish la piscine, il était samedi soir au concert de Oudi à l'Olympia. Ça va les courbatures, David ?
Alors, parfait. Mais très franchement, je recommande Oudi et Varnish la piscine. C'est vraiment des excellentes recommandations que vous avez pu me faire. Et voilà. Non, très franchement, merci beaucoup.
C'est quoi ces noms de groupe ?
Non.
Ils sont seuls.
Des artistes. Varnish la piscine est un artiste suisse, un producteur, un gros producteur de la scène rap suisse.
Tout à fait, je me suis
rendu. Thibaut, je t'invite à écouter Varnish la piscine. Je pense que l'univers musical peut beaucoup
attends,
te plaire.
Les noms de vos artistes là, ça part en vrille. Là. Ils vont s'appeler chez The Jardin, on dirait un catalogue confort. Ouais,
nous, on écoutait Rock Voisine en même temps. C'est pas forcément mieux.
Enfin, moi, j'écoutais pas Rock Voisine personnellement, mais c'est
Non, mais attends.
C'était quand même des mots qui avaient un sens. Enfin, Nirvana, ça veut quand même dire quelque chose.
Ouais. Rage Against the Machine aussi.
C'est pas un mec qui s'appelle Armoire ou tu vois, enfin, il s'appelle pas Table Basse le mec, tu vois. Mais... Varnish la piscine, le mec, il a un nom de chose, c'est bizarre.
Oudi, c'est un Sébastien Tellier des temps modernes.
Et Oudi, le mec, il a le nom d'un vêtement, quoi.
Oui, ça s'écrit pas pareil. Ouais. C'est Houdi. Mais toi, tu verras en tant que millénial, Thibaut, peut-être que tu apprécieras.
Peut-être que Thibaut est plus Fraîche la Douille ou Fraîche la Peufra, par exemple.
Fraîche la Douille, Fraîche la Peufra, c'est vrai qu'il y a tous ces artistes-là qui sont des artistes un peu limités, mais bon. Et enfin, vous l'avez entendu, il est né en 95, il aurait quand même pris un malin plaisir à se retrouver en 1956 sur le vélodrome André Pétrieux pour la victoire de Louison Bobet sur Paris-Roubaix. Mais bon, t'as quand même un peu rattrapé le temps perdu hier, Flo, à ce qui paraît.
Bah écoute, il y a des moments où même si on est bercé d'une heure et demie d'ennui, on a l'impression de faire un peu partie de l'histoire.
Ouais, c'est
et
vrai.
Voir Mathieu Van Der Poel voler sur les pavés pendant 60 km hier, c'était, C'était assez incroyable.
D'ailleurs, 95, c'est Duclos Lassalle, non, qui gagne le Paris-Roubaix, non? Je me trompe.
Non, non, 97, Duclos Lassalle.
97.
Non, pardon, 95-97.
Ouais. Je l'ai fait, donc j'avais pas vu beaucoup des Paris-Roubaix, donc c'est Duclos.
Et j'ai vu qu'il... Attends, par rapport à Ballardini, c'est combien par rapport au vainqueur 98, le Van Der Poel? C'est quoi la différence de performance?
10 km d'écart, 1h30. 1h32, précisément.
Incroyable.
Bon, du coup, c'est 92 pardon, et 93.
C'est 93, 95 et 97, Frédéric Guédon, qui est le dernier vainqueur français en lice.
Mais qui s'appelle Guidon, quand même, qui gagne Paris-Roubaix. C'est marrant.
Oui, il y en a plein comme ça. Comme Michael Gélabal qui joue
pédale,
au basket.
Hein, en attendant. Mais... c'est
vrai. Bon, messieurs, amis auditeurs, n'hésitez pas, si vous pouvez, à soutenir ce podcast, à soutenir notre média 11e art en vous abonnant, en likant, en mettant des petites étoiles si vous écoutez sur Spotify. Et si vous le pouvez aussi, en faisant des dons sur notre cagnotte Hello Asso. Tous les liens sont évidemment disponibles dans la bio de nos réseaux sociaux et sur notre site internet. On va basculer sur notre sujet du jour et je vais laisser donc Thibaut commencer en parlant des millennials. Sont-ils d'ores et déjà les nouveaux patrons du football?
Oui, alors, avant qu'on dise que, comme on ne l'a pas encore précisé de quoi on parle, les millennials, à quoi ça correspond? Alors, moi, ça a été un peu un choc de découvrir ça. J'ai regardé ça aujourd'hui en préparant. Pour moi, les millennials, c'était les digital natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec Internet et les réseaux sociaux. La génération des jeunes nés avec Internet et les réseaux sociaux, c'est-à-dire, pour moi, nés en 2000, quoi. Donc, d'où le nom Millennials. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'anglais pour comprendre. Donc, à mon sens, c'était ça. Et c'est en fait une erreur, parce que quand je regarde, alors c'est difficile d'avoir exactement la source de ce concept, du nom de cette génération-là, mais apparemment, les choses ont l'air quand même d'être précises. Alors, selon les sociologues, selon les publications, en gros, voilà, je reprends ce que tu nous as mis, toi JB, tout à l'heure. Millennial, ça correspond, moi j'avais 1980 ou 1981, 1996. Alors, pourquoi 1980 ou 81? Difficile à dire. Génération X 65-80, donc en gros, c'est les boomers. Millennials 81-96, ce seraient ceux qui auraient 20 ans en l'an 2000, à peu près. Même si 96, c'est quand même un peu plus. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre. Et génération Z, 97-2012, où là, en gros, la génération Z, c'est la génération qui a 20 ans. Quoi.
Ouais, c'est les pires. Ouais.
Et moi, c'était plus à cela que je faisais référence. Mais ça dit quelque chose quand même d'intéressant. En réalité, donc j'ai appris, donc moi étant né en 1980, que je faisais de la partie de la génération que je conchiais, je comptais conchier ce soir. Donc ça m'apprendra à cracher en l'air, ça finit toujours par tomber dessus. Donc en fait, je suis aussi un millénial. Alors pourquoi? On l'a dit peut-être pour comment je recommence. Comment on définit ces générations-là? En fait, elles se définissent à travers l'innovation technologique. Innovation technologique qui sont en gros l'apparition d'Internet et d'Internet et ensuite des réseaux sociaux. Donc Internet pour nous, moi ma génération à nous, je crois que JB et David c'est à peu près la nôtre. Nous l'usage d'Internet, il apparaît vraiment un peu au collège, mais de manière largement marginale. Avec des modems qui ne servaient pas à grand chose. En gros, on ne faisait pas grand chose. Ça commençait à devenir un truc intéressant avec les mails, l'apparition des mails et des protocoles mail. En gros, c'est 2000-2001. C'est-à-dire, ça correspond moi, à mon époque, c'est un témoignage, au moment du début de la fin de mes études. C'est-à-dire que nous, on a fait nos études dans un univers qui était un univers où tu allais faire des exposés, tu allais en bibliothèque. Tu devais faire des recherches, tu avais un rapport au savoir qui était un rapport encore hiérarchique. C'est-à-dire, il y a des référents, il y a des gens à qui tu vas t'adresser, il y a des lieux qui sont consacrés à ça. Moi, j'étais dans le quartier latin, mais bon, il y avait d'autres, j'étais dans d'autres domaines. Tu allais à la bibliothèque Sainte-Geneviève, ou la bibliothèque de géographie, la bibliothèque sciences politiques, etc.
Tu photocopiais.
Tu photocopiais, c'est-à-dire.
Tu copiais l'œuvre des autres.
c'est-à-dire que l'objet livre avait lui-même une valeur. Je dis pas, je le dis sans nostalgie, quoique, pour juste expliquer l'univers mental dans lequel on a grandi pour comprendre. Ouais, les microfilms, t'as raison, JB. Pour comprendre l'univers mental dans lequel on a grandi et comment la révolution d'Internet a changé ça, et la raison pour laquelle je pense on fait pas partie de la même génération que nos amis de 11e art, par exemple. Donc nous, on a grandi là-dedans. La fin de nos études, ça correspond au début des mails. Donc ça veut dire que pas vraiment de base de données. On avait encore des CD-ROM qui se battaient en duel. On avait le CD-ROM Encyclopédia Universalis vaguement.
Qui venait avec l'ordinateur. Quand tu achetais voilà, un ordinateur, on te le donnait.
Avec l'ordinateur. Donc, c'était un rapport au savoir, un rapport à Internet était encore dans l'utopie de ce qu'était Internet, de la société cybernétique, où on vivait dans une espèce de, l'idée de, on va se mettre en réseau, ce qui va permettre de multiplier le savoir. Ce qui va permettre de faire de nous une génération instruite, et on vivait dans cette utopie un peu qui a comme ça existé dans la Silicon Valley pendant longtemps, et de dire, on va créer un monde un peu parallèle dans lequel on va enfin avoir accès au savoir. Et jusqu'à L'homme cybernétique, qui était un bouquin de l'époque assez célèbre, je ne sais plus l'auteur, raconte l'idée de ce nouvel homme et qui a accès à la société du savoir. Ça, c'est jusqu'à 2001-2007. Je date de 2007 assez précisément. Et je pense que là, il y a un changement de génération à ce moment-là. Parce qu'à partir de 2007, arrive Facebook. Et arrive le. Ça, il faut se référer à Bruno Patino, notamment, qui raconte ça très bien. L'arrivée de 2007, c'est Facebook, ce sont les réseaux sociaux et ce sont surtout un modèle économique. Parce que jusqu'à 2007, Internet n'a pas encore de modèle économique viable. Il n'y a pas de société rentable. Google est encore Google, Yahoo sont encore Google et quasiment pèse très peu. Yahoo est à ce moment-là leader encore. Et il n'y a pas encore.
Ils viennent de se mettre en bourse, Google. C'est juste un moment où ils rentrent en bourse.
Ils rentrent en bourse. Et donc, il n'y a pas encore de modèle économique. On ne sait pas encore comment gagner de l'argent sur Internet. Il y a beaucoup d'investissements, c'est l'essence des startups. Mais il n'y a pas encore d'économie, de modèle économique rentable. 2007 change tout parce qu'avec l'arrivée de Facebook, on rentre dans un nouvel univers. On quitte l'univers de l'utopie, qui est l'utopie du savoir, et on rentre dans l'économie de l'attention. Où là, cette fois-ci, c'est inversé, c'est que l'esprit humain était censé être ouvert par Internet, c'était la bibliothèque d'Alexandrie, un peu, c'était le mythe de la bibliothèque d'Alexandrie, enfin accessible. Je sais que moi, mon père, par exemple, était radioamateur et Internet réalisait hein, beaucoup de promesses des radioamateurs, hein, savoir pouvoir contacter des gens dans le monde entier, se parler en toute bonne volonté. Facebook, comme ça, était au début et comme ça. On met beaucoup de choses sur Facebook, ses photos de vacances. Moi, j'ai rencontré mon épouse sur Facebook.
On peut arrêter l'émission là, et faire le reste dessus. Ou...
C'est une capsule.
Voilà. Et donc pour dire à quel point on croyait, et je croyais à l'utopie de Facebook. Et j'ai épousé l'utopie de Facebook, si je puis dire, au sens littéralement. Littéralement. Et avec l'idée que tu retrouvais des amis d'enfance, tu avais un lien qui se créait, une sorte, vraiment l'esprit communautaire d'Internet au départ. 2007. 2009, crise des subprimes, 2008, à partir de là, on rentre dans un nouvel univers, et quid du football dans cette affaire-là? Eh bien, 2008, c'est le Barça, c'est l'arrivée de Messi, c'est le duel Cristiano-Messi, où on rentre dans l'ère de la data. Et c'est le moment où s'ajoute à l'économie de l'attention, l'économie de l'attention, c'est-à-dire comment attirer du monde sur des sites pour pouvoir vendre des pelles et des brouettes de jardinage, tu vois, des choses comme ça. Non, vendre des objets qui sont des objets du quotidien, mais à travers Internet. Cette fois-ci, on va vendre de l'Internet lui-même, c'est-à-dire de l'attention, du temps. On va vendre du temps sur Internet à partir de 2010-2011, de l'attention, c'est-à-dire du temps de cerveau disponible. Et donc, avec ça, l'économie de la trace, l'économie du big data, intervient et le football devient à ce moment-là une cible. Jusqu'en 2010-2011, il n'est pas vraiment concerné par la révolution d'Internet, si ce n'est à la marge. Il sert éventuellement à glaner des informations, mais qui te des résultats. Souvenez-vous, alors il y avait l'époque où tu regardais les résultats sur le télétexte, si vous vous souvenez de cette époque-là.
Absolument.
Et Internet, Yahoo au début, c'était un peu une sorte de super télétexte, de super minitel, quoi, qui servait juste à avoir accès à des informations auxquelles tu n'avais pas accès, mais qui n'avait pas, c'était pas encore l'Internet communautaire tel qu'on connaît maintenant. Toi, tu pouvais pas uploader des trucs. C'était vraiment, c'était une source d'information qui était encore hiérarchique. Donc, t'avais une source et toi, tu t'abreuvais à cette source-là. Avec 2010-2011, l'arrivée de l'Internet communautaire, ça change tout. Cette fois-ci, le football devient autre chose que une source d'information. Il produit lui-même de la donnée. Et notamment, c'est l'arrivée du big data. Il produit de la donnée des joueurs. C'est la première fois qu'on mesure le taux de possession. Rappelez-vous, avant, la possession, ça n'intéressait personne. Avec le Barça de Guardiola, on se met à mesurer la possession, on se met à mesurer le nombre de passes réussies. On invente, société française notamment, invente un outil qui permet de calculer le taux de passes réussies dans un match. Petit à petit, apparaissent comme ça des indicateurs, avec en plus l'arrivée sur ce marché-là des anciens brokers de la City qui ont été obligés de chercher du travail après la crise des subprimes. S'ajoute à ça l'industrie des paris en ligne, qui elle-même a intérêt à monitorer l'ensemble, un maximum d'informations qu'elle va vendre ensuite pour pouvoir vendre ses paris. Tout ça fait une mayonnaise. S'ajoute à ça des joueurs surtout Cristiano, même plus que Messi, qui sont des joueurs à data, qui produisent de la data, qui produisent de la stat, c'est-à-dire le nombre de buts, de passes réussies, de corners, de penalties. Tout cela crée une mayonnaise qui fait que le football devient lui-même une source d'information, une source de temps disponible, et arrive l'époque dans laquelle on vit maintenant, qui est la dernière frontière, à savoir on a réussi à monitorer tout ce qui était le contenu du football, le nom, l'information, les transferts, les sites comme Transfermarkt, les SORAR, les traces produites par les joueurs, les systèmes de jeu, etc., etc., les Y-Scouts, les Data, etc., tout ce dont on paye maintenant, s'ajoute une nouvelle chose qui est maintenant la forme du jeu lui-même. Et la forme du jeu lui-même, c'est exactement le problème, le mur contre lequel frappe pour l'instant l'économie de l'attention, et en particulier nos amis Florentino Pérez et Giovanni, enfin surtout Gérard Piquet et plus que Pérez et Agnelli, le mur de l'économie de l'attention, c'est un match dure 90 minutes, comment je fais quand je sais que d'après Google, les études qu'a fait Google, le taux de d'attention, la durée de l'attention minimale, enfin moyenne plutôt, de cette génération qu'on appelle les millennials, elle est de 9 secondes. Toutes les 9 secondes, le cerveau doit être stimulé pour pouvoir renouveler son attention, c'est-à-dire une seconde de plus que le poisson rouge. C'est une étude qui a été monitorée par Google, qui a permis d'essayer de vendre des applications, des événements, des choses qui permettent de stimuler sans arrêt le cerveau. Le problème du football, c'est qu'il ne dure pas du tout 10 secondes. Il dure 90 minutes et souvent, il y a des plages entières, des minutes entières où il ne se passe absolument rien. Comment on fait quand on vend de l'attention? Quand en réalité, ce qui se passe dans le match, c'est de l'ennui. C'est du temps qui coule sans du temps improductif. Moi, pour terminer ça, ce que je voulais dire, c'est que je crois que le football est à un moment clé, tournant, où il doit faire le choix de s'ouvrir, de se fermer à cette économie de l'attention. Est-ce qu'il doit ouvrir, auquel cas, la limite des temps? Tu as parlé tout à l'heure de la Kings League, excellent exemple. Première décision de la Kings League, réduire la durée des matchs. Pour prendre le modèle qui est le modèle de FIFA. Qui sont des matchs de 10 minutes, réduire et augmenter le nombre d'événements qui vont avoir lieu dans le match, pour surtout maintenir l'attention. Est-ce que le football doit prendre ce chemin-là pour aller séduire ces générations qui sont habituées à ce format-là, à ces stimulations toutes les 10 secondes, ou alors il fait le choix de se maintenir tel qu'il est, dans sa forme, c'est-à-dire, moi je pense surtout à sa durée et aux règles du jeu, et auquel cas, il risque de perdre une partie des millennials et éventuellement lui-même de, à terme, diminuer son audience et éventuellement aussi son industrie. Je ne sais pas quel choix il faut faire, mais en tout cas, je crois qu'on est dans ce moment très important du football. Les poissons rouges vont-ils gagner ? On verra.
Très belle conclusion. Merci beaucoup, Thibaut. JB, je te laisse enchaîner.
Alors, en tant que membre de la Gen X, hein, ayant connu de mon vivant Giscard, et oui, c'est moi le plus vieux ici, je me suis demandé deux choses, car je ne suis pas...
De ton vivant, j'espère quand même que t'avais quoi, 2 ans quand il est... Tu regardais quand
même... J'avais 2 ans, mais j'étais déjà plus vieux que toi. Déjà. Et donc, je n'étais pas millennials. Et je me suis demandé donc deux choses. Un, ce que vous aviez vécu comme football. Et je me suis demandé aussi ce que vous aviez apporté au football, parce que je considère que, étant beaucoup plus vieux, je n'ai rien apporté. En tout cas, mon héritage est déjà derrière moi. Alors, vous avez connu le meilleur, hein, vous avez connu Jean-Jacques Goldman, les années 80, Gold, et la décennie suivante, on en parlait tout à l'heure, hein, celle de Rock Voisine, de Tapie, en un mot, celle des vainqueurs. Ce qui est bien avec les millennials, c'est qu'on leur a raconté le passé, mais il n'y a qu'eux qui ont connu la victoire, sous Mitterrand, sous Chirac. Alors ça, les gars, vous aviez dû, je parle à Valentin là, et à Flo, hein, voir des images, vous appelez ça des archives, nous on a appelé ça notre enfance. Et donc, que ce soit la Coupe des Coupes pour le PSG, les enveloppes de Glassman pour les Marseillais ou la Coupe du Monde, hein, cher ADD, c'est cette époque bénie où Lyon n'était rien et ne comptait pas. C'est un peu comme aujourd'hui, mais avec Domenech comme coach à l'époque. Et donc, ces millénials, ils ont connu le meilleur et ils sont maintenant aux responsabilités. Et donc, on arrive à cette fameuse question. Ont-ils des qualités? Faut-il considérer ce qu'ils ont fait? Qu'ont-ils fait? Alors d'abord, là, on va rendre hommage à Thibaut. Hein, il produit des revues de qualité, exploite du personnel plus ou moins qualifié, comme on le fait avec, bon, il faut vous le dire maintenant, les gars, avec vous, hein, Valéflo, on vous exploite. Mais le millénial, c'est allé beaucoup plus loin. D'abord, il poursuit un rêve néolibéral d'un football business dérégulé. Ça fait plaisir à David, enfin plutôt à Gérard Lopez, pardon. Le millénial, ça a mis des écrans partout. Hein. Il a créé la VAR, à force de jouer à PES et à FIFA et de se prendre des tôles. Et à se rappeler, hein, finalement, de ce que ses parents lui disaient en parlant de Foucault, il s'est dit, tiens, appliquons le panoptique au football. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Platini, l'idole d'enfance, a essayé de régner, puis il a chuté et tout le monde a échoué. Ils ont déboulonné les idoles, hein, comme certains le font avec les statues en ce moment. Alors c'est Blatter qui est tombé. Ils ont voulu mettre des valeurs. Ça a donné La Brune, Infantino et Eto'o. Ils ont créé la Coupe de la Ligue et la Ligue des Nations, ayant une pensée pour elle. Ils ont tué le Ballon d'Or et fait naître le joueurisme. Tu parlais très bien, Thibaut, tout à l'heure, de Ronaldo, qui est l'exemple typique de ça. Alors, est-ce qu'il faut remercier les millennials? Ah oui, je pense qu'on peut aller jusque-là, hein, sans vraiment être ironique. Sans eux, le football ne serait pas ce qu'il est devenu. Le Barça serait resté un club respectable et pas un club disneylandisé qui chambre le PSG à coups de montgolfières éclatées au sol, comme disent les fans de Raf la Piscine et Faf la Kalash.
Ça va pas, hein.
Ah, ça, c'est pour toi. Faf
la Rage, d'ailleurs, qui est un très bon.
Raf la Piscine et quoi? T'as dit quoi, là? Que je le note, celle-là?
Faf la Kalash.
Et Faf la Kalash, d'accord.
Les clubs États n'existeraient pas. Hein, le PSG resterait notre club de losers préféré. Manchester City ne serait pas un club de tricheurs, juste un club ringard de Manchester, vivant à l'ombre du Diable Rouge. Mais heureusement, le Millennials ne s'est pas arrêté là. Il a inventé la Super League, hein, une sorte de NBA du foot, qui heureusement pour l'instant n'a pas éclos. Alors par contre, ils ont réussi à mener la Coupe du Monde là où elle n'était jamais allée. On appelle ça le Golfe Arabo-Persique, c'était 2022 et le Qatar. Ça va se dérouler en 2030 sur trois continents, et puis en 2034, hein, la patrie des origines, l'Arabie Saoudite, l'endroit où l'argent est plus vert que l'herbe qu'il n'y a pas. Mais ce qui est assez intéressant avec le millénial, c'est que si on l'avait écouté, on continuerait à sous-payer les joueurs et à enchaîner des contrats à temps. Ça, c'était avant Bosman. Heureusement, le millénial a dégagé des boomers. Alors, il y en a qui s'accrochent, hein. C'est Noël Le Graët, c'est Joe Biden. Le millénial, ça a finalement dépassé le boomers. Il est allé beaucoup plus loin, il a tout saccagé. Alors, en vérité, il faut le dire, le patron maintenant, c'est le millénial. Alors désolé les gars, hein, de la GNZ et toutes les autres générations alpha. Nous sommes à la tête du football, un peu comme Macron, Trudeau ou Richie Sunak. Le problème, c'est que, bah, on le voit avec Thibaut, on le voit avec David. Nous sommes devenus vieux, les gars. Ça, il faut le dire. On rêve de l'étranger, d'une villa à la campagne. On s'est embourgeoisé. Et maintenant, moi, je regarde les choses comme ça. Je pense qu'on contemple à la mi-temps de notre vie notre propre fin. Donc on s'interroge avec le même niveau de pensée que l'équipe 21, enfin en tout cas pour ce qui me concerne. Et ce que je vois derrière, c'est qu'on est en train d'essayer de séduire une cohorte plus jeune, plus insoumise, pourtant si peu nombreuse. Alors ça pourrait être le démon de midi, on appelle ça nous la génération Z ou la génération Alpha. Enfin, ceux qu'on appelle les 2000, hein, ceux qui finalement ont découvert Aimé Jacquet dans des livres d'histoire. Cette génération Z, c'est un peu comme finalement cette jeune fille qui essaie de traquer les boomers. C'est-à-dire, on essaie de faire jeune, on essaie de compiler les codes, et puis on sort des blagues type Gad Elmaleh en ayant des références qui sont celles des inconnus. Ça donne quoi? Bah, ça donne la King's Cup, ça donne le carton vert, ça donne Gérard Piqué, ça donne donc en gros un futsal pour youtubeur ingrat à boutons, le football version Smash Bros. À destination de ceux qui font pas de sport. Bon, on doit finalement aux millennials, hein, cette superbe génération à laquelle je n'appartiens pas, la marioisation du soccer, les postes mystérieux de Benzema, hein, et aujourd'hui encore, des équipes entières de philosophes travaillent dessus. Et puis, accessoirement, l'arbitrage de Stéphanie Frappard. Donc ça, je tiens vraiment à insister là-dessus. Le Millennials, finalement, et je n'en fais pas partie, hein, selon Harvard, est coupable. Et ça, il faut le reconnaître. En tant que principal dirigeant du football, on aime les Millennials. C'est un peu le refus du péril jeune. Et ce qu'on voit avec eux, c'est qu'ils n'ont rien réparé, ils n'ont rien rangé. Ils laissent maintenant la génération Z faire ce qu'il reste à faire, c'est-à-dire finir de tout dégager. Donc, comme le dirait Giscard, je ne vais vous dire qu'une chose. Au revoir.
Merci Papy Réac. Je vais laisser David enchaîner sur sa présentation.
En fait, j'ai un peu l'impression d'être dans les crampons de Ruben Amorim qui va prendre la suite de Jürgen Klopp ou de Moyes qui va prendre la suite d'Alex Ferguson.
T'es dans le grand bas, t'es dans le vide.
Ça va pas être facile de passer après de passer après JB pour le coup.
Non, mais alors moi je suis parti d'un je tiens à contredire un postulat, c'est que le fait que le football ne soit plus aussi populaire ou en tout cas plus aussi attractif. Je pense que c'est un faux argument qui a été avancé par les créateurs ou les potentiels créateurs de la Super League. On voit que les droits télé bon an mal an se maintiennent. Il y a une légère baisse, mais étant donné la crise économique globale, c'est vraiment pas dramatique. Il y a même eu, on attend des droits télé en hausse à l'international en Ligue 1 et en Première Ligue, c'est plus ou moins stable. Les affluences sont en hausse quasiment partout. Quasiment tous les championnats postent des affluences moyennes en hausse. Et tous les sondages plus ou moins sérieux, disent que l'intérêt pour le foot en tant que sport ne ralentit pas. Il y a seulement, avec l'arrivée des millennials, il y a un bouleversement de deux critères qui sont fondateurs du football en tant que sport. Le premier critère, c'est le temps, car le football, c'est un des sports dont le match dure le plus longtemps, donc 90 minutes. Et le second, c'est l'aspect collectif. Donc, on individualise de plus en plus, non seulement le football, mais également la façon de consommer le football. Et l'interview de Ryan Cherki dans SoFoot est aussi éclairante. Car je pense que l'interview de Ryan Cherki, c'est juste pour illustrer, bouleverse ces deux éléments. Il y a du fait qu'au cours de son interview, il ne parle quasiment que d'individus et pas de collectif. Et le fait que c'est quelqu'un de 20 ans qui parle comme un professionnel de 35 ans. Cherki, il a déjà 4 ans de carrière. Mais trêve de Ryan Cherki, à mon sens, il y a trois éléments constitutifs de la génération Millennials, avec toujours cette référence au temps et à l'individualisation. Otero, qui est le responsable de la formation à Marseille, a utilisé une métaphore que je trouvais très juste pour décrire ce changement, c'est celle de la petite aiguille, qui est l'aiguille des heures, et celle de la grande aiguille, qui est l'aiguille des minutes. Et les millennials, que ce soit les journalistes, millennials, les consommateurs, se focalisent sur la grande aiguille. Ils ont besoin d'être stimulés, comme vous l'avez dit, très régulièrement. Le premier point, c'est la personnalisation du football pour les millennials. Et ça va un peu avec la création de cette notion de communauté et de représentation, de caractérisation des millennials. Il y a un sondage qui est sorti qui dit que 2/3 des Français font plus confiance à leurs connaissances qu'aux médias traditionnels. Et ça se ressent dans la façon de raconter le football. Quand on voit qui a du rayonnement, qui a de l'influence, qui est mis en avant par les millennials dans la façon de raconter le football, c'est des gens qui ont des communautés. Ça peut être Walid Acharchou, qu'on salue, ça peut être Scipion, ça peut être Willou, ça peut être Zach Nani, ça peut être Romain Molina, qui est lui un peu plus vieux. Mais même au sein, par exemple, de la communauté bordelaise, l'influenceur qui a le plus de rayonnement, c'est quelqu'un qui s'appelle Franck Diabaté 33, et qui pourtant ne fait que relayer des informations soufflé par la direction, ou des news de transfert, mais une heure avant, en fait, si vous voulez. Il s'est créé ce personnage, il a individualisé ce personnage, qu'il a créé un espèce de lien de confiance virtuelle qui fait qu'il est énormément suivi. Le deuxième élément sur lequel les millennials ont énormément insisté, c'est là encore l'individualisation via la confidentialité. Ce que les Anglais appellent « behind the scenes ». On consomme de plus en plus le football seul. On ne regarde plus en famille, on ne va plus dans les bars. Il y a 58% de la génération Z qui préfère consommer le football seul. On s'attend donc à quoi ? On s'attend à être en face-à-face avec l'intimité du club de football ou du footballeur. 26 ans après les yeux dans les bleus, qui était quelque chose de complètement novateur, où on avait l'impression que les joueurs de l'équipe de France étaient quasiment tous nos amis, qu'on avait une vraie relation enfin, ça dépend de son âge, mais filiale ou de familiale avec les bleus, tous les clubs se mettent à cet aspect confidentiel, à cet aspect immersif. Ça peut être Wrexham, avec Ryan Reynolds et McElhinney, qui ont financé leur développement par l'intermédiaire d'un documentaire, où tout est individualisé. Chaque épisode est une petite histoire d'individus au sein du club. Et ça peut être n'importe qui. Et c'est ça, en fait, qui donne envie aussi aux spectateurs de continuer à regarder. C'est que tu as tu peux avoir le kitman, celui qui prépare les maillots, tu as le gérant du pub, tu as le supporter qui a perdu son travail, qui raconte comment Wrexham l'a aidé. Il y a la frontière entre l'individu et le club et le joueur, les frontières sont en train, en fait, de tomber petit à petit. Il y a aussi le YouTuber. Moi, je connaissais pas du tout, en fait, cette génération tout ce contenu pour préparer cette émission. Je suis allé voir deux épisodes de deux jours avec, qui est un YouTuber, en fait, passe deux jours avec un sportif. Et très franchement, c'est absolument révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de filtre entre le joueur, le club, l'attaché de presse, celui qui consomme, le spectateur. C'est vraiment du one-on-one, du marquage individuel. Et le troisième aspect d'individualisation, c'est que désormais, quasiment tout le contenu du football n'est pas fait pour l'histoire, avec un grand H, mais pour les histoires. C'est pour se forger une opinion, en fait. Tout est individualisé. Que ce soit le format highlights, on peut avoir, on se forger une opinion d'une rencontre en regardant 3 minutes. On rate tout le côté dramatique, mais on peut en discuter. Le format court et punchy de toutes les capsules que même les plus grands médias et la plus grande émission, l'émission reine, l'émission star du football, l'After, met en ligne. Chaque émission, chaque épisode de 2 heures, c'est 10 petites capsules. Et à la fin, en fait, si vous voulez, ce qui importera aux spectateurs, c'est pas vraiment de savoir, c'est d'être au courant, en fait. Et je vais terminer par un chiffre qui, moi, m'a absolument bluffé. 48% des millennials et de la génération Z, fans de foot, accepteraient de ne pas voir les matchs de l'Angleterre à l'Euro 2024. C'est-à-dire que cette nouvelle génération, elle se satisferait de suivre qui est fan de foot l'évolution de son pays via des highlights, via du live stream, via des talk shows, et ne même pas vivre l'émotion que peut faire ressentir la victoire d'un pays. Et c'est là, en fait, cette statistique que je place en dernier, qui m'a vraiment fait dire, oui, on est sur un bouleversement et du temps et du rapport au collectif, que ce soit l'équipe, la nation, qui est beaucoup plus centrée sur l'individu désormais.
Merci beaucoup David et merci messieurs pour cette première partie. On va prendre une petite respiration après cette première partie intense et ce one man show JB pour laisser à Flo le temps de nous présenter les petits articles vidéo et consorts qu'il a vu cette semaine et qui l'ont intéressé ces deux dernières semaines, même puisque nous étions absents la semaine dernière.
Eh oui, salut mes petits ultra-conservato, millennials, mitterranophobes. J'espère que vous allez bien après cette semaine de repos.
Mitranophobes.
Que vous avez pu profiter de votre week-end de Pâques, comme nous l'avons évidemment sagement fait avec Val et des amis vers Montargis pour les 30 ans d'un pote. Car oui, nous sommes aussi avec Val des amoureux de la province et de la nature. Bien que Val, un peu trop, alors qu'étrangement, démarré au même moment et dans le même département du Loiret, le procès d'un dog-sitter de 27 ans, condamné à 18 mois de prison pour atteinte et sollicitation sexuelle sur des animaux tout en se filmant avec un masque de chien. Génial. Coïncidence, je ne crois pas. Bon, sinon il paraît qu'on serait de la même génération Y, celle donc dite des millennials. Tout ça alors que JB et David auraient pourtant pu être nos profs, et David, notre conseiller en patrimoine. Bon, laissez-nous un peu de temps pour décompresser et encaisser cette dure nouvelle avec Val, enfin Val et moi, mais aussi David, bien évidemment, qui mène de front sa double vie, déposant sa fille le matin à l'école, avant de se plonger dans son boulot de manager de Salford et de banquier en investissement, tout en songeant au cours de sa riche journée à ce qu'ont bien pu devenir les carrières des Wonder Kids, Freddy Adu, Tcherno Samba, Fabio Paim, Bébé, ou encore Zakaria Bakali. Vous ne comprenez rien, messieurs, David, lui, si, et c'est ça qui fait de lui un mini-Elials, davantage, évidemment, en tout cas que d'enchaîner les gorgées de 7-Up à l'émission. Mais si David est connecté, il l'est tout de même un peu moins que le staff du Liverpool Football Club, qui a travaillé avec DeepMind, filiale de Google, pour créer un nouvel outil d'intelligence artificielle nommé Tactic AI, afin d'aider les entraîneurs à trouver les meilleures tactiques et combinaisons pour défendre ou attaquer sur corner. L'une des rares situations, évidemment, au football, où le jeu est figé, facilitant ainsi une analyse fondée sur les données. Après avoir collecté des datas sur près de 7000 corners en 3 ans de recherche, Tactic AI peut désormais apporter des suggestions qui sont préférées par le staff des Reds à 90% du temps par rapport aux configurations observées dans la pratique, comme l'explique Glenn Cellier pour le site d'Eurosport. Un projet notamment mené par Ian Graham, directeur du département de recherche et data à Liverpool, bien conscient que l'IA, déjà très utilisée dans les process de mercato et de recrutement, pourrait prendre une place prépondérante dans le monde du football. Loin de la Mercée et de ses pratiques modernistes, Javier Aguirre, le coach de Majorque, est quant à lui le porte-drapeau de tous les entraîneurs à l'ancienne. Finaliste malheureux de la Copa del Rey ce week-end, le technicien a son domaine réservé, l'intuition. Son cœur de métier, qui se cache derrière les portes des vestiaires et sur les visages inquiets des veilles de défaite, davantage que derrière les capteurs GPS ou autres iPad. Qui se permet en subversion de relever l'inutilité des gadgets mis à sa disposition, acceptant l'idée simple qu'aucun outil technologique ne peut objectiver une relation humaine. Loin, très loin de l'illusion scientiste d'un savoir au format d'immenses disques durs ou dans lequel suffirait de puiser pour réfléchir et décider. Aguirre, nous dit tout ce qu'il fait l'essence même du métier d'entraîneur, celui qui, justement, est en mesure de défier la logique, à la fois modèle pour les uns et cible pour tous les autres. C'est ici, comme tu l'as écrit Thibaut dans ta chronique pour la revue de l'After intitulée « Aguirre ou la colère des yeux », qu'il faut définir plus précisément un vieux concept de philosophie qu'on appelle maladroitement la prise d'information, soit une réduction de l'activité cognitive à un disque dur à remplir et programmer. Ce qui amène Aguirre à faire confiance à son intuition et non au calcul, dans un savant mélange d'expérience et de sensibilité, pleinement arbitraire et subjective, relevant d'une manière singulière de percevoir le monde en dehors de la réflexion et de toute logique formelle. Ah Thibaut, toujours un plaisir de relire 4 fois tes éditos pour être sûr de tout comprendre.
C'est pas clair là.
Un peu.
Clair pour vous en fait, mais y a les gens qui font de la philo et comprennent, mais ça va trop vite.
Tu dis vous, mais on est de la même génération, je te rappelle.
Non, je vous parce que vous n'êtes pas spécialiste, c'est normal, mais je dis sans aucun truc, mais bon, peu importe. C'est comme David et ses bilans financiers, on comprend rien s'il nous les dit comme ça, tu vois. Pareil, peu importe.
En tout cas, c'est toujours un immense plaisir de te lire et de te relire, un peu comme ton illustre collègue Jérémy Janot, désormais entraîneur des gardiens espoirs de l'équipe de France dans le staff de Thierry Henry. Mais l'ancien portier fantasque de Saint-Étienne s'est également fait connecter pour ses sorties complotistes sur les réseaux sociaux. Un univers qu'il a vu au crépuscule de sa carrière comme un nouveau terrain de jeu pour aiguiser son sens de l'humour, mais aussi visiblement pour se cultiver. Mais surtout, un moyen pour l'ancien Spider-Man des Verts de donner son avis sur tout. Et d'identifier, selon lui, les potentiels leaders dans les différents groupes qu'il a coachés, auprès d'une génération Z biberonnée aux réseaux sociaux et aux polémiques, et davantage drivée par l'échange que par l'ordre, comme l'écrivent Raphaël Brosse et Antoine Donariex pour le dernier magazine de SoFoot. D'ordre, il risque d'en manquer lors de la confrontation entre le PSG et le FC Barcelone. La faute aux Casuals, groupe ultra-mafieux du FC Barcelone, héritier des Bocchochnois, hooligan ultra-violent aux sympathies néo-nazis qui polluent à nouveau l'ambiance jusqu'à dériver désormais vers le grand banditisme, comme l'explique Servan Lejeune dans les colonnes de l'équipe. Dans la foulée des nombreuses affaires de violence avec d'autres supporters, la police catalane a en effet découvert l'implication présumée du groupe dans des affaires d'extorsion, de trafic de drogue, de proxénétisme et même de 2 homicides. Des Boychoches pourtant interdits par Laporta et le club depuis 2003, mais toujours présents au stade et dans les parkages visiteurs, la plupart continuant d'entrer à titre individuel grâce à leurs cartes de membres et de sociaux, comme on l'apprend dans l'article. Pionniers du mouvement ultra en Espagne, les Bocchochnois, ou garçons fous en catalan, qui ont vu le jour en 1981, ont tout d'abord représenté l'identité catalane, voire indépendantiste, s'opposant évidemment aux très droitières Brigadas Blanquiazules du voisin de l'Espagnol prônant l'unité de l'Espagne. Mais rapidement, la mode skinhead s'est étendue dans le groupe dès la fin des années 80, déferlant son lot de racisme, d'homophobie et de haine, comme en 1991, lorsque des membres de la Peña tuent un jeune supporter français de l'Espagnol, ainsi que Sonia Rescalvo Zafra, une transsexuelle en plein cœur du parc de la Ciutadella. Le tout avec la quasi-bénédiction du président Blaugrana de l'époque, Johan Gaspart, élu en 2000 et qui se vante alors d'être le socio numéro 1 de la bande, laissant armes et prostituées circuler dans le local de la Peña, où les casuals, sous-groupe des Bosch Hush Noise, mettent peu à peu la main sur le groupe Ultra. Aujourd'hui, si certains membres du groupe, dont son leader Ricardo Mateo, sont actuellement jugés pour tentative de meurtre, extorsion et trafic de drogue, les mutineries lors des précédents procès et les pressions empêchent les langues de se délier, alors que bon nombre des casuals, dans l'attente du délibéré de leur procès, sont encore en liberté et que certains sont toujours soupçonnés d'avoir blessé une quinzaine de forces de l'ordre en voulant s'en prendre dernièrement aux tifosi du Napoli. Là aussi, le temps et les générations passent, mais les mêmes démons ne cessent de ressurgir, menaçant notre société et le football. Non. Bien mieux que la profusion de la haine envers les autres comme pour l'histoire du jeu, il est temps de réapprendre à cultiver cet ennui qui précède l'admiration. Que ce soit pendant les 90 minutes d'un Arsenal-Manchester City, autant que pendant les 60 km de raid solitaire du roi Mathieu Van Der Poel sur les très redondants pavés de Paris-Roubaix.
Merci beaucoup Flo, merci beaucoup pour cette nouvelle revue de presse hebdomadaire qui était encore une fois excellente. Et j'ai beaucoup aimé cette anecdote que je n'avais pas vu passer sur ce procès dans le Loiret là, qui était très bien avec le mec qui se déguisait en animal. Les millennials ont-ils déjà pris le pouvoir? Sont-ils les nouveaux patrons du football? Tu réponds à cette question, Thibaut, en définissant déjà la génération de laquelle on parle, la génération qui est identifiée par son... Enfin, la génération qui incarne l'innovation technologique. Tu cibles une première période, 2001-2007, celle qui est la période où Internet devient intéressant et utile, avec notamment l'avènement des mails au début des années 2000, et surtout à une époque où le savoir était encore hiérarchique, et tu estimes que toi, Internet va mettre en réseau et permettre de multiplier le savoir. Donc là, on est sur une période entre 2001 et 2007. Et justement, à partir de 2007, l'avènement de Facebook crée un modèle économique d'Internet. On quitte alors l'univers de l'utopie pour l'économie de l'attention. Et tu t'interroges, quid du foot à ce moment-là? C'est à ce moment-là que le duel Ronaldo-Messi arrive et on parle évidemment de l'avènement de la data. On passe donc, comme tu le disais, à une économie de l'attention et le foot devient une cible. Devient une source de contenu avec les paris en ligne, avec la production de données, avec l'arrivée des financiers, avec les joueurs à data. Et aujourd'hui, on ajoute désormais la question de la forme du jeu avec justement cette nouvelle génération. Comment peut-on faire des matchs de 90 minutes alors qu'avec tous ces réseaux sociaux, on a une attention de seulement 9 secondes? Et tu estimes que nous arrivons à un moment tournant. Est-ce que le football va s'adapter à ces problèmes d'attention ou rester dans sa forme actuelle? JB, toi, tu poses deux questions de savoir ce que les millennials ont vécu. Évidemment, ces millennials ont vécu la génération des vainqueurs, les PSG, Marseille et la France, et France 98 dans les années 90. Et tu t'interroges sur qu'est-ce qu'ont fait les millennials? Alors des choses positives, puisque sans eux, peut-être que le football n'aurait pas connu le grand Barça, n'aurait pas connu le grand Man City, mais aussi des choses négatives en poursuivant notamment la politique libérale mise en place au début des années 90, avec la mise en place d'écrans, le déboulonnage des idoles, de faire naître le joueurisme et le clubisme aussi, et aussi des nouvelles compétitions, le gigantisme des compétitions avec la Super League, la Coupe du Monde au Qatar. Et tu estimes que pour toi, le millennial est coupable puisqu'on se calque aujourd'hui sur lui. Et David, tu réponds à cette question en essayant de contrer l'argument comme quoi le football n'est plus aussi populaire qu'avant, ce qui est un argument fallacieux selon toi. Les droits TV sont en augmentation, les stades sont évidemment bien remplis. Et je me perds dans mes fiches, mais c'est bon, j'ai retrouvé. Mais avec les millennials, il y a un bouleversement de ces critères, notamment deux critères importants, le temps, avec le temps des matchs, et l'aspect collectif. Tu fais référence notamment à l'interview de Cherki. Il y a trois éléments constitutifs qui font comprendre les millennials, toujours en lien avec ces deux arguments. D'un côté, premier argument, la personnalisation du football, puisque ceux qui ont du succès aujourd'hui sont ceux qui réussissent à créer des liens de confiance. L'individualisation du football, avec les millennials qui consomment le football désormais seuls, et tu estimes qu'il y a aussi une plus grande proximité aujourd'hui entre le consommateur, le joueur et le club à travers la production de différents contenus comme les séries par exemple. Et troisième argument, tu estimes que tout le contenu est fait aujourd'hui pour les histoires et non pour l'histoire, et donc pour se forger sa propre opinion. Tu cites les highlights, tu cites les petites capsules des grands médias, et qu'aujourd'hui le spectateur ne veut pas savoir, il veut être au courant. Voici les arguments que vous avanciez dans cette première partie, messieurs. N'hésitez pas à me corriger ou à rajouter éventuellement des éléments incompris dans cette deuxième partie, puisque nous allons basculer dedans et entamer une discussion un petit peu moins formelle. Et je relance d'ailleurs Thibaut sur ce sujet-là.
Ouais, merci Val. Je voulais revenir sur ce qu'a dit David, notamment sur la question de l'individualisation et que je vais mettre en lien avec ce que j'ai pas pu dire plus dans le détail avec un autre phénomène qui est l'idée d'une société qui avec les réseaux, la société postmoderne, en plus les réseaux, parce qu'il n'y a pas que les réseaux qui ont fait ça, mais qui ont été mis en œuvre par les réseaux, ce qui est l'idée d'une société liquide. Concept de Sigmund Bauman que moi j'avais importé dans le football en lui donnant un sens un peu différent. Mais
le fameux football liquide,
mais qui n'était pas exactement dans le même sens que l'utilise Bauman. Quand Bauman parle de société liquide, il parle de la société postmoderne. Il se place dans le lien de beaucoup de travaux qu'il y a eu à l'époque dans les années 90 sur la postmodernité, les sociétés post-industrielles. Et l'idée que la société liquide est une société dans laquelle il n'y a plus véritablement de hiérarchie, il n'y a plus d'autorité verticale, et que la société liquide, au contraire de la société solide, qui était la société du passé, qui est cette société qui se projetait dans un avenir avec une idée de stabilité, dans la société liquide, il n'y a plus de stabilité, une horizontalité des savoirs et une très grande individualisation. Une individualisation à l'extrême qui mène à un paradoxe, dit Bauman, très intéressant, c'est que l'individualisation à l'extrême, qui semble être une forme d'émancipation individuelle, qui est un peu l'idée de la postmodernité, c'est-à-dire crois en tes rêves, fais ce que tu veux, n'écoute personne, etc. Un peu tout le storytelling du sportif de haut niveau, si je puis dire.
De Tony Parker.
Voilà, Tony Parker.
il faut le voir dans Qui veut être mon associé, c'est quelque chose.
Ah, c'est Just Do It.
Bon, en ce moment, je lis 93 de Victor Hugo. Je préfère une bonne guerre civile, là, ça me fait du bien. Donc, ça, voilà. Qu'on en finisse. Voilà, comme ça, c'est réglé. Donc, je termine sur la société liquide. Et paradoxe de la société liquide, de l'individu dans la société liquide, c'est que la singularisation, l'extrême individualisation ne mène pas du tout à la fragmentation. C'est peut-être une partie de la thèse qui est discutable, mais mène à un phénomène très intéressant, dit Bauman, à un conformisme. C'est-à-dire que l'individu livré à lui-même n'est pas un individu qui va multiplier les risques, qui va prendre des risques, qui va essayer de s'aventurer. L'individu livré à lui-même va au contraire avoir un comportement extrêmement conformiste et va essayer à tout prix de reconstituer des normes à travers des agrégations provisoires avec un tel. Et c'est exactement le phénomène des réseaux sociaux qu'on voit maintenant. Bauman, il écrit ça dans les années 90, mais là on le voit très bien, c'est-à-dire que tu dis tout à l'heure, effectivement, on s'adresse à des comptes anonymes. C'est très intéressant de dire ça, mais qu'est-ce qui se passe dans les comptes anonymes? C'est que se créent des meutes. Les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est
des communautés
autour de mots d'ordre tous plus simplistes les uns que les autres, qui sont absolument pas des mots d'ordre d'émancipation, c'est moins qu'on puisse dire, qui sont plutôt des mots d'ordre qui fonctionnent quasiment comme de la censure sur beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, hors football et hors football, et qui fonctionnent comme des nouveaux organes de censure, et qui met de censure spontanée au travers les individus. Donc un espace qui était au départ, moi j'en parlais comme l'utopie un peu de la Silicon Valley, l'utopie d'Internet des années 70, c'est l'idée de la mise en réseau, une société parallèle, un nouveau monde qu'on va construire. C'est les hippies qui ont créé Internet, enfin il y a eu les militaires, mais ceux qui ont développé l'idée d'Internet, qui ont fait l'usage tel qu'on a maintenant, c'est au départ ce sont des hippies, mais comme Steve Jobs c'est un hippie, ce sont des gens qui créent une sorte d'utopie à partir de la technologie, qui au départ est un champ d'émancipation individuelle, devient en fait le champ du flicage généralisé. On arrive dans la société panoptique dont nous parlait JB, qui leur faisait référence à Foucault, l'idée que c'est un organe de surveillance et un organe de censure. Et on le voit dans le football, en réalité, l'immense prolifération de comptes, l'immense prolifération même d'équipes et de visions du monde mène à une très grande grand conformisme du jeu, grand conformisme de l'analyse et conformité aussi à des mots d'ordre menés par quelques influenceurs triés sur le volet, mais qui au final disent plus ou moins la même chose. C'est très difficile d'avoir une vraie variété sous cette confusion, sous cette immense profusion de comptes et profusion d'opinions. Il y a en réalité un très grand conformisme.
Non, mais moi, c'est, moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, ce qui me frappe, c'est que dans toutes les recherches de ce que j'ai pu lire, ce qui confirmait ce que je pensais, c'est qu'il y a une individuation, mais forcée, de la consommation, et, mais aussi un désir paradoxal de faire partie d'une communauté. C'est-à-dire que je veux être quelqu'un, je veux qu'on m'identifie et je veux qu'on me reconnaisse en tant que tel, parce que j'ai un pouvoir de consommation et que j'ai un pouvoir divin de dire j'aime ou je n'aime pas, et de gratification aussi immédiate, de dire je suis liké, je ne suis pas liké, on achète mon produit, on n'achète pas mon produit. Mais il y a ce désir de faire partie d'une communauté, d'être un individu, mais surtout, en fait, de ne pas être trop différent des autres. Et c'est ça qui
c'est ce que dit Bauman, hein. C'est la postmodernité, c'est ça. L'extrême individualisme, et en même temps qui cherche absolument à reconstituer une norme.
Mais ce paradoxe, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me frappe, en fait. C'est-à-dire que c'est la singularité dans l'homogénéisation, en fait.
Et l'instinct grégaire, il y a une forme d'instinct grégaire, la grégarité.
Et même, alors j'ai lu un article absolument terrifiant, très surprenant en tout cas, sur un sondage sur les jeunes de la génération Z, sur ce qu'ils attendaient, en fait, d'un stade moderne. Et on aurait pu se dire, mais je sais pas, une meilleure acoustique pour plus d'ambiance, une meilleure.
C'était pas les galettes saucisses, quoi.
Une meilleure visibilité. Non, mais après, tu veux dire pourquoi? Je sais pas. Peut-être une meilleure animation avant le match. Ils attendent une meilleure connectivité. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas était vraiment précurseur. Ils veulent être capables de se connecter pour faire quelque chose en regardant le match.
Ma question, David, c'est que la logique commerciale, est-ce que, dans quelle mesure elle aboutit pas à une impasse? Dans cette logique-là, parce qu'on parle de connectivité, dans quelle mesure elle s'auto-détruit pas? Si tu parles de connectivité, il faut mettre les mecs en réseau, qu'ils aient tous des masques pour avoir la réalité augmentée dans les stades, etc. Dans quelle mesure ça détruit pas même l'idée de stade, en fait? Ça sert plus à rien d'être
dans un stade. Mais paradoxalement,
c'est pas contre-productif, en fait.
Mais paradoxalement, dans toutes les composantes de la consommation du football, c'est le stade, c'est le live event qui continue à être recherché. Pourquoi? Parce qu'il faut faire savoir qu'on y est allé, la plupart du temps. C'est ça. Donc, en fait, rien ne remplacera l'expérience du « j'y étais », en fait. Mais moi, ce que tu parlais de l'aspect commercial, je pense qu'il va y avoir un vrai chamboulement sur les droits télé, pas sur le montant, mais sur le montant de ce qui est vendu. Je prends le pari que bientôt, ce qui sera vendu est beaucoup plus cher, ce sera quasiment des highlights ou une production de highlights, ou le droit de diffuser les highlights, que le droit de diffuser le match complet.
Comme Free aujourd'hui.
J'en suis exactement. Je pense que le lot de Free, ou le lot du résumé, le lot que TF1 cherche à avoir via Téléfoot, sera quasiment aussi cher que le prix de retransmettre le match dans son entier.
Tout à fait. Ouais.
Ou alors, ça peut être le parfait produit d'appel. Parce que, pour évidemment, et tu le sais, David, et tu la connais aussi très bien, et JB aussi, mais pour suivre énormément la NBA, et j'ai la sensation que c'est aujourd'hui la seule ligue de sport majeur à le faire, met les highlights et les résumés de ses matchs de manière complètement gratuite. Et laisse même, au-delà même de son propre réseau social qu'elle est sur ses réseaux sociaux, laisse d'autres médias, et pas des médias détenteurs forcément de droits télé. On peut penser par exemple à un Trash Talk qui est un formidable média en France, ou à un First Team pareil, qui sont des médias indépendants et qui peuvent utiliser ces images-là de highlights. Et ce qui en fait va évidemment créer à la fois l'amour d'un public et l'attrait d'un public pour le basket, même s'il ne le connaît pas, et qui va aussi attirer un public éventuellement de cette génération jeune, plus jeune, qui ne va pas aller regarder les matchs, qui va pas aller regarder 48 minutes de match, mais surtout qui dure 2h30 ou 3h, mais qui va se contenter des highlights, encore plus quand on a le décalage horaire. Et justement, la NBA a très bien compris ça, parce que la NBA qui fait office aujourd'hui, peut-être avec la Première Ligue et la NFL, de ligue la plus au fait du modernisme et des nouveaux modes de consommation, a pour autant exactement les mêmes problèmes qu'on se pose aujourd'hui dans le
football. La NFL de moins en moins vieillissant, c'est ce que j'ai appris en lisant.
Exactement, de matchs trop longs, avec les pubs, mais aussi de durée trop longue et où le public a du mal à rester, d'une saison régulière à rallonge avec 82 matchs par équipe, donc on a presque 6 mois de saison.
Ils ont un problème de franchise de la NFL aussi. Les franchises qui réussissent, c'est des villes dont personne n'a quelque chose à foutre. Un problème, ça.
Exactement. Mais
Kansas City Chiefs, tout le monde s'en fout.
Exactement. Et par exemple, pour la NBA est en train de se poser aussi d'autres questions sur l'expansion de ses franchises et d'un nouveau cycle d'expansion pour augmenter le nombre d'équipes. Mais à ce problème, et à par exemple créer un in-season tournament, une sorte de super coupe en plein milieu de la saison, pour susciter un semblant d'attrait au milieu de la saison.
82 matchs, c'est long.
Parce que 82 matchs, c'est très long. Donc même la NBA se pose ses problèmes et ils utilisent très bien cette machine à highlights avec des médias qui n'ont même pas de droits. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est le parfait produit d'appel.
Je vois, quand je vous écoute, c'est que quand on parle de millennials, finalement, notre génération, elle a créé une sorte de tension. Tu parlais de société liquide, Thibaut, tout à l'heure. Je pense qu'au centre de ça, il y a cette idée de création permanente de nouveautés, d'innovation au sens strict, hein, qui est devenue une sorte de principe régulateur aujourd'hui. Il faut créer quelque chose d'innovant en permanence. Donc, on avance. Il faut créer de la nouveauté qui accompagne, alors que nos sociétés n'ont jamais autant demandé de l'identité, de l'ancrage, du lien. Et donc, il y a cette tension-là entre les deux. Et on le voit avec la NBA. La NBA crée du nouveau, crée du highlight, et peut-être la plus grosse productrice d'images de toutes les ligues qui existent largement devant l'APL. Et en même temps, quand tu regardes les matchs, plus de 80% des matchs ont rigoureusement aucun intérêt. Et on se retrouve donc dans une course à des formats toujours plus courts qui t'accrochent. Mais quand tu reviens au produit initial, tu te fais chier. À tel point que la NCAA, on est en pleine March Madness.
Avec le tournoi féminin, qui a tout explosé.
Voilà. Et ce soir, il y a la finale masculine. Moi, j'ai regardé la finale de NCAA féminine avec la défaite de Caitlin Clark et d'Iowa State hier soir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde le niveau de jeu, c'est des gamins. Alors, il y a la tradition universitaire américaine, mais ça a créé une audience globale qu'on n'avait jamais eue sur un tournoi universitaire, quel que soit le pays. Et en même temps, c'est parce que c'est des nouveaux visages, il y a une nouvelle histoire à raconter, et on a épuisé finalement ce stock d'histoires communes. Et on a besoin de se réinventer. D'où, par exemple, l'équipe qui fait des papiers sur le français qui est en demi-finale et qui a perdu.
Alors, je voulais dire un truc là-dessus, justement, JB, tu me donnes une perche là-dessus sur la question de la mise en récit. On est obsédé, et je vous encourage à lire Vide à la demande de Bertrand Cochard sur ce sujet-là, sur les séries notamment. On est obsédé par la mise en récit. On n'arrive plus à raconter, tu parlais tout à l'heure de l'individualisation des récits, David. On est effectivement incapable, même journalistiquement, de raconter le sport autrement que par une histoire héroïque d'un personnage qui lutte contre deux. Voilà, ce qui est en fait le schéma traditionnel de l'histoire telle qu'on raconte, du storytelling à l'américaine, qui vient pas des États-Unis, qui date même d'Homer, mais qui est défait de toute son importance philosophique, si je puis dire. On est incapable de raconter le sport autrement. On a énormément de mal à raconter le collectif. Ça devient quasiment impossible de raconter autre chose qui
même
soit
les
pas,
coachs, même le travail des coachs est individualisé. On parle en fait du
l'histoire de Rocky en fait. C'est toujours l'histoire de Rocky plus ou moins qui se répète quoi. C'est il arrive pas, il s'entraîne, il a trouvé un mentor, finalement il apprend un coup secret et puis l'affrontement final il va gagner. Voilà, on n'arrive pas à sortir de ça. On n'arrive pas à sortir de cette mise en récit là. Tout est comme ça, y compris les storytelling sur LinkedIn de chacun. Tout est inspirant, quoi. Tout est comme ça. Tout est mis en récit. On n'arrive pas à sortir dans autre chose. On n'arrive pas à même un récit philosophique. On parlait de l'intuition. Mon papier de demain parle de ça. Pourquoi pas parler, de l'intuition? Qu'est-ce que c'est que l'intuition? À quoi ça sert pour un coach? Comment ça fonctionne? Parce que c'est pas une histoire. On n'arrive pas à sortir de ça. Et je crois que l'image sur ce plan-là et la génération milléniaux dans laquelle on fait partie, apparemment, porte un peu le poids de cette responsabilité-là, c'est-à-dire d'avoir transformé toute la réalité en une histoire. La fiction a pris le pas sur la réalité, on le voit avec les documentaires sportifs notamment. Dernier cas, exemple de la Formule 1, Drive to Survive, est en train de souffrir de ce problème-là, de la mise en récit excessive qui devient ensuite inexploitable parce que les pilotes eux-mêmes ne veulent plus faire le jeu de ce récit qui ne ressemble pas.
Et qui est parfois complètement décorrélé de l'intérêt sportif.
Ce qui est assez intéressant, les gars, c'est que ça correspond à l'avènement dans la culture pop du héros mille visages de Joseph Campbell.
Oui, c'est ça, de Campbell. Ouais.
Quand ça devient la matrice dans Star Wars, et quand on voit que ça emmène, c'est des structures narratives.
C'est la structure de Blockbuster. Voilà.
Et derrière, ça écrase tout le reste parce que les récits singuliers, la manière finalement d'éclater la littérature vont faire que on aura quasiment plus de poésie qui fonctionne. La philosophie, elle se lit de moins en moins alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin. La sociologie va se limiter à raconter des histoires alors qu'on ne lui demande pas ça, on lui demande de faire autre chose. Et ça se voit dans le foot aussi. Aujourd'hui, c'est très compliqué. L'interview de Ryan Cherki, pour moi, elle est fascinante de ce côté-là.
Et ah bah, c'est ce qu'on appelle se la raconter, quoi. C'est vraiment
sens. C'est exactement ça. Mais c'en est même psychanalytique avec lui. C'est-à-dire que tu te demandes jusqu'où. Alors, il y a la part de communication, il y a la part de moi, ce gamin m'inquiète vraiment parce que moi, si je lis ça en tant qu'éducateur, je fais un signalement. Il est inquiétant. Et puis surtout, il s'est fantasmé un passé. Quand il se présente comme un ancien, alors qu'il a 23 ans, quoi.
Non, il a 20 ans, il a 20 ans.
Oui, il a 20 ans, mais...
Il a 4 ans de professionnalisme derrière lui, enfin, tu vois, c'est ça.
Cette interview de Ryan Cherki, elle est intéressante sur ce plan-là, parce que, pour le sens qu'elle a, c'est-à-dire, on est face à quelqu'un, en espagnol, on l'appelle le postureo. C'est-à-dire, c'est l'idée de travailler des postures. Et tu vois vraiment qu'il y a plusieurs postures successives qui sont travaillées. Alors, dans quelle mesure il a écrit, il a vraiment dit ça, parce que bon, Ryan Cherki, bon, voilà, il n'est pas l'éloquence qui le caractérise, donc je sais pas exactement s'il est vraiment responsable de tout ce qui est écrit dans le papier, mais si on prend l'objet tel quel, il y a sans arrêt une posture, il y a la posture du petit jeune qui arrive, il y a la posture de l'ancien, on le voit quand il parle du football, il a la posture de l'ancien. Après, il y a la posture du joueur collectif, mais en fait, qui est un faux individualisme, mais qui est un collectif.
Du sensible.
Après, il y a la posture du sensible, il y a la posture de l'artiste, celui qui aime tellement l'art contemporain qu'il achète des tableaux de Batman, enfin, pardon. Pauvre Kandinsky.
ChatGPT, quoi. C'est-à-dire, il a demandé à ChatGPT de faire l'interview.
Mais il est peut-être sincère. Non, mais il est peut-être sincère. Et ce que dit très bien Lipovetsky dans L'ère du vide, c'est ça. L'individu postmoderne, c'est, je cite, la coexistence douce des antinomies. C'est-à-dire, on peut dire tout et son contraire, ça ne pose plus de problème. Il n'y a plus d'obligation de cohérence. On peut dire, parce que ce qui compte, c'est la posture. Donc, peu importe la cohérence. C'est un peu, quand on regarde un peu la mode est un peu comme ça aussi, c'est on mélange les textures, il n'y a plus de cohérence, c'est ça la postmodernité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de lien véritablement de structure solide, et là on reprend le terme de Bauman, tout devient liquide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de cohérence. Et c'est, retenez bien cette formulation, que je trouve géniale pour décrire l'individu postmoderne, la coexistence douce des antinomies. C'est-à-dire que vraiment, c'est qu'elle ne pose plus de problème. Et vraiment, chez Ryan Cherki, c'est ça. On peut être à la fois un jeune et un vieux joueur. On peut être à la fois un joueur individualiste et un joueur collectif. On peut être à la fois un joueur qui se prend pas la tête et en même temps écrire des poèmes en anglais chez lui. On peut être à la fois vivre tout seul, mais en même temps avoir un agent qui répond à ta place dans les interviews. Voilà, on peut tout faire, on peut tout dire, tout et n'importe quoi, ça ne pose plus de problème. Et je crois même que cette interview a beaucoup plu. Donc c'est peut-être encore plus inquiétant.
Ce qui est très dur pour le reste des papiers, parce que je pense que c'était peut-être le 5e ou 6e papier en termes qualitatifs. Je critique pas le journaliste, hein, qui est tributaire en fait de ce que le joueur lui raconte.
Oui, bien sûr. Non, mais l'interview dans le style est bonne. L'interview dans le style journalistique est bonne. Elle dit quelque chose. Tu vois, il se passe quelque chose dans cette interview. Elle est réussie sur ce plan-là.
Elle a touché au sens. Elle a ému beaucoup de gens. Moi, j'étais assez surpris parce que je la trouve assez. Assez creuse et assez symptomatique, en fait, peut-être d'un excès d'individualisme.
Ah, c'est la fin de ta phrase, pardon.
Non, c'est vrai.
Bon, très bien.
C'est comme Beyoncé avec son album dans lequel elle fait de la country. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas cohérent et on voit le problème. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et la question, c'est que c'est quand même reçu de manière extrêmement positive par l'environnement. La couverture de l'interview de Cherki, c'est comme Taylor Swift, c'est mignon 5 minutes, mais il y a un moment, tu te dis, les gars, les ficelles, elles sont là, quoi.
Bon, messieurs, on va clôturer cette émission sur cette intervention. On est déjà à 1h07 d'émission, donc on va pouvoir basculer sur nos recours en se posant quand même la question de savoir si, en termes de posture, il est possible d'être à la fois philosophe et millénial. C'est vraiment la vraie question du soir. Et justement, je vais te donner la parole, Thibaut, pour que tu nous donnes ta reco et qu'éventuellement tu répondes à cette question.
Ben justement, vide à la demande de Bertrand Cochard sur la forme série.
et notamment l'aliénation du temps libre que représente la série. Et c'est une critique très intéressante, pas sur le contenu, parce qu'il y a des séries qui sont très bonnes à voir, c'est pas le problème, mais sur qu'est-ce qui se passe, quel est le sens de ces tunnels fictionnels qu'on s'impose, de ces tunnels qui colonisent notre temps libre, voilà, et quel rapport au travail ça révèle aussi. Donc, Vide à la demande de Bertrand Cochard chez l'édition de l'Échappée.
J'y vais.
Moi, j'en ai deux. Il y a le MBS Confidential de chez Noël Bruno qui est sorti chez Michel Lafon. Alors, tu parlais de
MBS Mohamed Ben Salman.
Ouais, voilà. Mais le titre,
préciser,
c'est
préciser MBS pour préciser de quoi on parle.
Vraiment intéressant parce que on suit la construction du personnage et là, pour le coup, on est vraiment sur un récit qui permet de comprendre d'autres choses. Et puis alors, sur un autre plan, mais c'est un autre type de millennial, c'est Stephen Curry, Underrated, qui est sur Apple+, qui est dispo sur Canal, qui est étonnamment lisse, alors que justement, il essaie de montrer l'aspérité. Et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on regarde ça en étant mis à distance en permanence, alors qu'on devrait être touché. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a eu avec le documentaire sur Magic Johnson ou même The Last Dance. On n'entre jamais dedans, et c'est assez surprenant de voir comment on peut rater une fiction documentaire, justement parce qu'on n'est pas capable de trouver la bonne distance.
J'avoue, je me suis arrêté au bout de 40 minutes, je crois, du documentaire aussi, parce que j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. David.
Ouais. Magic Johnson, il est rentré dedans pour le coup, lui. Pas qu'une fois.
Je te voyais sourire depuis tout à l'heure, ta blague était prête et tout. Je me suis dit, il va sortir une dinguerie.
Magic Johnson, tu rentres jamais dedans. Ah la vache, ouais. Bah, il aurait bien aimé, pas. Il aurait bien moins rentré, lui. Ça lui aurait fait du bien, ça.
Bien, c'est bien. Merci. On embrasse les gens de l'Arcom et de.
Voilà.
Donc David va se faire monter en l'air par Magic Johnson et les frères
Lebrun. Je ne suis pas responsable de ce que dit David Guzman.
Donc, Philippe Seguin. Le tempétueux, sans transition, bien évidemment, un super numéro d'affaires sensibles. Écoutez, vraiment très très bien.
Ta grande spécialité. Toi, t'es en mode recommandation fait divers dernièrement, là.
Ah non, Philippe Seguin, c'est pas un fait divers, affaires sensibles.
Non, mais oui, non. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Non, c'est pas la chèvre de ce Seguin, c'est
une autre
histoire.
Et c'est pas affaire criminelle.
Merci. Oui, c'est vrai. Pardon, j'ai confondu avec affaire criminelle. Parce que j'ai écouté The Upshot entre temps. Et en termes de. Ah, c'est pas des faits divers, mais.
Attends,
c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal.
Quel épisode t'es
écouté? T'avais recommandé celui sur John Terry, donc j'y suis allé là-dessus.
Il est costaud.
Et c'est pas mal, ouais. C'est pas mal.
La scène des toilettes de la boîte de nuit avec la fille en béquille. Ouais, c'est quelque chose.
Flo. Je peux préciser ce qu'est Upshot quand même pour ceux qui nous écoutent.
The Upshot, en fait, si tu veux, c'est un podcast qui est fait par deux journalistes anglais qui retracent les pérégrinations des joueurs anglais les plus déjantés. Donc, tu as du Barton, tu as du Roy Keane, tu as du John Terry, tu as eu un épisode sur Beckham. Là, je suis en train d'écouter un épisode.
Jermaine Pennant.
Ah, Jermaine Pennant, c'est le roi. Jermaine Pennant qui a déménagé au Love Manor.
Voilà, mais c'est que des histoires de.
Il y a un truc que j'aime bien dans
beuverie,
J'adore le mauvais goût anglais. Je trouve ça quelque chose d'exotique. C'est très simple. C'est assez rassurant. C'est des mecs qui aiment les grosses voitures, les meufs. Tu vois,
ils sont exceptionnels. Vraiment terribles.
Là, c'est plus la picole et les.
C'est de la picole. C'est des espèces d'étudiants hardcore, quoi. Tu vois,
non, mais surtout qu'ils ont une capacité.
C'est pas Quincy Promesse, quoi. Tu vois,
ils ont une capacité à produire génération après génération. C'est exceptionnel, quoi.
Là, je suis dessus, les gars, c'est incroyable. C'est-à-dire que j'étais jamais allé voir, j'avais juste vu les highlights sur Twitter. Je pensais pas que c'était sur Spotify. C'est incroyable.
C'est exceptionnel.
C'est la plus grande concentration de dinguerie venant.
Hier, j'ai fait l'épisode sur Ronaldinho. Il est incroyable. Qui fuit le Brésil vers le Paraguay avec un faux passeport, qui se fait griller alors que t'as pas besoin de passeport pour passer du Brésil au Paraguay. C'est exceptionnel.
Incroyable. Flo Tarocco.
Podcast d'Alternative Football, donc un des podcasts de SoFoot qui ont invité au mois de février Nicolas Ourcade pour deux épisodes de 45 minutes.
Les sociologues, oh là là, les sociologues.
Deux fois 45 minutes, mais
T'as mis une pièce.
Pour dire la même chose, pour deux fois 45 minutes.
T'as mis une pièce, là.
Il a parlé de ses participations aux multiples commissions depuis 2007, hein, sur le supporterisme en France. 2007, c'est à 20 ans.
Il faudrait que Gérald Piqué se penche sur le sujet, et traduirait tout ça, là.
Bon, Flo, finis tes recos.
J'ai mis ma pièce dans le jukebox, je vais vous donner ma vraie reco maintenant, même si je vous conseille quand même de l'écouter. JB, tu parlais du documentaire sur Stephen Curry qui est assez plat et pas ultra intéressant. Je vous invite, pour ceux qui ont Prime Video, à aller regarder le documentaire Giannis de Marvelous Journey sur la vie et la carrière de Giannis Antetokounmpo.
Oh, c'est chiant. C'est chiant.
Il est chiant.
Mais...
Oh,
alors, chiant. Merci Flo pour tes deux recos qui sont vraiment.
Il est chiant, mais pour des, gens qui ne sont pas forcément au fait de.
De quoi de la vie en général
De la vie et de la carrière de
du divertissement
ça peut... Non, c'est un
genre pour... à qui le divertissement ne plaît pas. Regardez ce genre de choses.
C'est intéressant pour l'histoire. C'est intéressant pour l'histoire du joueur et de l'homme qui est derrière. Sur son histoire. Sur son
gens qui s'amusent trop, en fait, qui rigolent trop. Vraiment,
quoi, si vous riez trop, si vous avez besoin un peu de. Voilà,
si vous êtes trop de bonne humeur.
Oh là là, je me suis endormi deux fois sur l'histoire du jeune migrant grec qui arrive à, par le basket à s'élever. C'était beau comme du Thibaut Leclerc.
Ça, j'ai arrêté, j'écris plus des trucs comme ça, moi. C'est fini. À l'époque, j'écrivais ça, c'est fini maintenant. j'écris des trucs beaucoup plus. Non, j'écris plus ça. Non, je rigole. C'est pas vrai. C'est une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire.
T'es vraiment un escroc. T'es un immense escroc.
Bon. C'est un philosophe, monsieur. C'est un philosophe.
Bon, je vais clôturer ces recommandations en recommandant, je crois que je vais être validé pour une fois par Thibaut, en recommandant le nouveau podcast de Philippe Collin sur Louis Ferdinand Céline sur France Inter.
Alors écoute, parlons-en, justement. Alors voilà. Là, je ne l'ai pas encore écouté, pour la raison suivante.
C'est de la merde.
Philippe Collin fait un travail remarquable dans plein de sujets, mais Philippe Collin est idéologiquement extrêmement marqué. Donc, quand Philippe Collin parle de Céline, je crois que... Il y a certainement des chefs-d'œuvre qu'il faut lire de Céline, il y a des choses abominables de Céline, mais est-ce que ça m'intéresse que Philippe Collin me raconte l'histoire de Céline? Pourtant, j'ai adoré Léon
peut-être
Blum.
Mais
en même temps, c'était la maison, Léon Blum, donc voilà.
La différence entre toi et moi, c'est que aussi, peut-être que tu connais beaucoup mieux l'histoire.
Le Pen, c'était bien, mais pareil, parce que les gens de gauche, ils sont toujours fascinés par l'extrême droite, donc ils font des trucs sur Le Pen. Le Pen était très bien, Léon Blum était très bien, c'était la maison. Céline, il y a quand même l'aspect littéraire, moi, qui interfère entre les deux. Je suis pas certain qu'on puisse en faire une lecture uniquement historique de Céline.
Si je peux avancer des arguments,
je ne l'ai pas écouté.
Tu as probablement une connaissance beaucoup plus approfondie que moi sur l'histoire de Louis Ferdinand Céline, dont j'avoue, je ne connaissais pas grand-chose, puisque je ne l'ai que... Je crois que je ne l'ai pas lu au collège. Je n'ai pas eu à le lire. Donc, je n'ai ni lu Céline, ni je ne connais son histoire. Et donc, c'est... pour le coup, quelqu'un qui n'y connaît rien, un super épisode pour comprendre toute la construction du personnage, enfin un super podcast même de manière générale, pour comprendre la construction du personnage, comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et peut-être qu'après tout ça, je lirai Louis Ferdinand Céline, mais en tout cas, jusque là où j'en suis, donc à la fin du troisième épisode, il n'y a pas vraiment de jugement.
10 heures à écouter un podcast sur un écrivain qu'on n'a pas lu, sans no offense, hein, plutôt que de juste le lire directement. C'est quoi la différence? Ça m'intéresse en tant que millénial, tu vois.
Pour l'instant, c'est des questions de temps, surtout.
C'est étonnant, tu vois.
Pour l'instant, c'est des questions de temps. Bah oui, mais...
10 heures, c'est le temps pour lire la moitié du Voyage au bout de la nuit, ce qui est un chef-d'œuvre.
C'est vrai. Bah, peut-être que je prendrai 10 heures après.
Non. C'est un chef-d'œuvre.
Ou pendant.
Le problème, c'est que...
Mais je sais pas,
le voyage, il faut le lire justement sans rien savoir de Céline.
Ah, vraiment.
C'est
ça, le problème. C'est ça, le problème. C'est que c'est...
Mais pourquoi, du coup? Pourquoi c'est si dérangeant de savoir?
Ah, parce que t'oses pas aimer.
D'accord.
Ouais, enfin, on fera une émission sur sur Céline, mais moi, je suis pas un grand connaisseur de Céline. J'aime beaucoup deux œuvres de Céline. Je les connais pas toutes. Le personnage est un personnage abject, mais comme il y en a eu beaucoup dans la littérature.
Bon, en tout cas, si je peux me permettre, en tout cas en termes de production, c'est évidemment hyper bien produit.
C'est ce qui est agréable avec ces podcasts, c'est que c'est.
Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Moi qui ne connaissais absolument rien à la vie de Céline, je suis rentré dedans alors que j'ai pour le coup, pas forcément d'atome crochet avec ce sujet-là. Donc voilà, je recommande sur France Inter le podcast de Philippe Collin. Messieurs, merci beaucoup. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous pouvez vous abonner ou acheter le dernier numéro de la revue de l'After, nommé Les Agents, les vrais maîtres du jeu, avec qui nous sommes partenaires. La revue est disponible sur le site internet lafter.media. Vous pouvez vous abonner pour seulement 42€ par an ou 4,50€ par mois. C'est vraiment une super affaire pour une revue de qualité que vous recevrez 6 fois dans l'année. Donc voilà, je recommande chaleureusement. Et si vous le pouvez, en plus de ça, nous soutenir, n'hésitez pas. Nous avons une cagnotte Hello Asso sur laquelle vous pouvez faire des dons. Ou alors, vous pouvez nous soutenir en likant, partageant, en parlant à vos amis, en mettant des pouces, en mettant des étoiles. Bref, vous connaissez la formule. Messieurs, je vous remercie encore une fois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Comex. Ciao, ciao à tous.
Ciao.